Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, entre les poteaux,
Pierre Amiche.
Bonjour à tous, alors comme en équipe de France, il y a l'équipe premium et puis l'équipe pas premium. Donc cette semaine, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Wilfried Templier font du frais en vue des phases finales. Ça n'est pas le cas pour le reste des poteaux et c'est tant mieux parce que si tout change dans votre podcast préféré, eh ben on va pas en dire autant de la Champions Cup. On a beau changer les règles, modifier le format, ajouter des équipes, eh bien on va quand même retrouver les deux ogres européens en finale. Dans le coin droit, le Leinster, impressionnant de maîtrise face à Toulouse et vainqueur facile de sa demi 41-22. Dans le coin gauche, La Rochelle, époustouflante contre Exeter qui a écrasé les Anglais 47-28. Un record à ce stade de la compétition, deux matchs, deux démonstrations et une finale de rêve. Comme en 2022, le Leinster et La Rochelle vont s'affronter, mais cette fois sur les terres irlandaises. Une revanche attendue, prometteuse et il faut le dire, un peu excitante. Hein. La Rochelle a-t-il les armes pour réaliser l'exploit? Les Irlandais sont-ils injouables cette année? Quelles sont les forces et les faiblesses des deux équipes? Eh bien, les poteaux passent au crible les demi-finales et décryptent les qualités et les défauts des deux équipes avant la grande finale de la Champions Cup. Les poteaux du jour, justement, lui, a tout connu avec les Maritimes, de l'enfer de la Pro D2 à la finale de la Coupe d'Europe. Un parcours admirable, mais un Corse qui travaille le 1er mai. On aura tout vu, Nicolas Paul Orsi. Bonjour.
Salut les gars. Alors, on n'est pas l'équipe premium, mais on se connaît quand même dans le groupe des 42. On
pas
est dans le groupe des 42
encore.
Ou quoi?
Franchement, j'en
même
sais rien
pas
du
sûr.
Tout. Ouais, pas sûr. Lui aussi, il est heureux d'être le 1er mai parce qu'il a enfin le droit de porter les Bermudas sans être jugé par les collègues. Bonjour Julien Landry.
Salut Pierre, salut à tous. Ouais, j'ai l'impression qu'on est les France U20 là. Tu vois, on est France U20. On est en avant.
C'est toujours très valorisant. Merci Julien.
C'est vrai.
Enfin, il nous a prouvé qu'il n'était pas toujours un homme de cœur dans ses papiers. Il nous démontre aujourd'hui que ça n'est pas non plus un homme de gauche. Bosser un 1er mai. Léo Faure du Middle est avec nous. Bonjour camarade.
Et toujours le poids levé. Salut à tous.
Pour la première fois de l'histoire de la Champions Cup, deux équipes se retrouvent un an après pour une revanche qui s'annonce explosive.
Ça avance bien côté Toulouse avec Jack Willis, l'anglais, qui redonne à Dupont maintenant à la sortie du rock. Ntamack, une sautée sur l'extérieur avec Lebel. Il y a peut-être un coup à jouer sur l'extérieur avec Pitaki qui va le marquer. L'essai toulousain, le premier essai dans ce match. Oh, l'essai du Leinster. La punition est sévère avec le carton jaune de Ramos et l'essai derrière du Leinster. Attention, pression, regroupement, le départ dans le fermé de Van der Fleer qui donne à Conan. Conan peut-être intérieur. Non, il fate la passe sur Malia et il va à l'essai, le deuxième essai du Leinster. Attention, le ballon perdu par le Stade Toulousain et l'essai du talonneur Chian. Cinquième essai du Leinster. Ah ouais, là c'est dur pour les Toulousains, là la fête est terminée d'ailleurs pour eux. Et on en reste là, victoire du Leinster 41-22. Le Leinster qualifié pour la finale de Champions Cup qui se jouera ici même à Dublin.
Les Rochelais ont envahi Bordeaux, plus de 40 000 supporters de La Rochelle, des drapeaux de partout, la passe au pied parfaitement juste d'Antoine Ayston pour Raymond Roule à la course qui prolonge au pied à l'image d'un footballeur et qui vient aplatir en coin. La réponse immédiate des Rochelais. Essai Rochelais, sublime essai inscrit par le Stade Rochelais. On est parti des 40 de La Rochelle et on a avancé, des passes après contact, des offloads. Ils sont venus pilonner la défense d'Exeter avec des joueurs qui franchissent, des avants qui font mal à cette défense anglaise. C'est fait, victoire sans surprise du Stade Rochelais qui a assumé son statut de favoris, ils ont atomisé Exeter 47-28.
On a vécu quand même un très beau week-end de rugby. Déjà, juste avant de rentrer dans le détail, messieurs, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné sur cette demi-finale? La Rochelle ou le Leinster, Julien, par exemple?
Le problème, c'est que je crois que le Leinster, ils nous surprennent même plus. On s'attendait à la démonstration de force des Irlandais, ils nous ont pas déçus. Je pense que les Rochelais montent en puissance et les Rochelais sont surprenants parce qu'ils ont eu quand même un trou dans cette saison. Ah, bah, on en parlera, mais avec toute la gestion de Ronan O'Gara, où il a beaucoup fait tourner ses équipes. Il y avait ses défaites à domicile contre Pau notamment, où ils ont eu quelques accidents dans la saison qui pouvaient laisser penser qu'ils étaient peut-être moins bien. Et là, ils ont sorti une masterclass hier. Donc dimanche, pour ceux qui téléchargeront le podcast mercredi, on le précise, mais oui, non, je pense que les Rochelais ont été au-delà de peut-être ce qu'on pouvait attendre d'eux.
Même question pour Léo, est-ce qu'il y a une équipe qui sort du lot pour toi avant cette finale?
Ah, plutôt Leinster, moi, parce que pour le coup, ils avaient quand même une adversité qui était supérieure. Tu parlais au début de deux ogres européens, il y en a trois en fait, parce que Toulouse est dedans.
Oui, mais il n'est pas objectif.
Non,
comment
non,
mais... ça, je suis pas objectif. Je suis comme Wilfried Templier, je suis parfaitement objectif.
Hein. Non, mais tu vois, les Rochelais, malgré tout, ils étaient annoncés supérieurs à Exeter. Exeter, ils font pas une grande saison. Ils sont sixième, je crois, du championnat d'Angleterre. On savait que les Rochelais, s'ils faisaient respecter la hiérarchie, il y aurait des points d'écart. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, par contre, sur Leinster Toulouse. Mettre 40 points à Toulouse, c'est fort quand même.
Nicolas, même question. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a le plus impressionné que l'autre?
Moi, je vais voter Landry. Non, je vais choisir La Rochelle. Non, je vais choisir La Rochelle. Alors, bon, je pense que je suis pas lucide parce que j'étais au stade. Donc, j'ai été pris vraiment par ce qui s'est passé au stade. Mais La Rochelle, pour sa capacité à se transcender dans les grands matchs, cette saison, c'est vrai qu'ils ont eu des gros trous d'air. On va en reparler. Mais dès qu'il y a de l'enjeu, dès qu'il y a un stade plein, ils sont allés gifler l'UBB au Matmut. Voilà, ils sont là, ils répondent présent. Et franchement, quand ils jouent comme hier, même si, bien sûr, l'opposition est à relativiser avec Exeter par rapport à la première demi-finale entre Leinster et Toulouse, ils arrivent quand même à chaque fois à hausser le curseur et en plus ils nous disent qu'ils ont une marge de progression. Donc bon.
Ouais, on va y revenir et d'ailleurs la déclaration de Ronan O'Gara, et c'est peut-être ça qui va nous intéresser, c'est quand il dit on n'est qu'à 30% de ce qu'on est capable de faire offensivement. Julien, on sent que cette formation de La Rochelle monte en puissance, tu l'as dit, mais comment ça s'explique? Est-ce que c'est avant tout les leaders qui progressent?
Ben malgré tout, on a beaucoup vanté la gestion du Gomola cette saison sur les internationaux en disant à Toulouse ils l'ont bien fait. Mais O'Gara, il a fait pareil à La Rochelle cette saison en ménageant notamment Aldrit et Antonio plusieurs fois cette saison. Alors ils ont encore beaucoup joué cette saison, ils sont à plus de 1200 minutes, 1815 même pour Aldrit. Mais par exemple, moi je n'oublie pas que Aldrit et Antonio, ils ont finalement pas fait tous les matchs du tournoi destination. On a même beaucoup coaché Grégory Aldrit au début du tournoi, on se demandait même à quel niveau était le numéro 8 Rochelais. Et on sent que lui monte en puissance et clairement aujourd'hui c'est le fer de lance de cette équipe avec Antonio, sans oublier évidemment Skelton parce qu'on en reparlera, mais l'homme qui est capable de détruire des molles à lui tout seul sera évidemment capital pour la finale. Donc tu as déjà Antonio, Skelton et Antonio devant et Aldrit devant, et puis ils ont aussi malgré tout aujourd'hui un vrai numéro 10 avec Antoine Astoy qui n'avait pas la saison dernière avec Yaya West. Aujourd'hui tu as des planètes qui sont alignées, tu as les joueurs ils sont à leur meilleur niveau à chaque poste, sans oublier évidemment Botti au centre du terrain qui aura évidemment son importance, sans oublier le retour peut-être de Jonathan Danty. Mais aujourd'hui à l'image un peu d'un stade toulousain, on peut imaginer que Ronan O'Gara se fait aussi quelques nœuds au cerveau quand il doit faire son équipe, parce que aujourd'hui il a des joueurs au maximum de leur potentiel au meilleur moment de la saison, mais parce que ça vient aussi de cette gestion d'O'Gara toute la saison. On en a moins parlé je trouve que finalement les Toulousains, mais La Rochelle aussi a beaucoup géré cette saison ses hommes et ils sont aujourd'hui au maximum de leur potentiel au meilleur moment de la saison. Et ils avaient réussi l'exploit la saison dernière, ça sera encore plus compliqué cette saison, mais on sent qu'ils montent en puissance et qu'ils sont prêts encore une fois à aller défier les Irlandais, mais tu l'as dit, cette fois-ci chez eux, sur leur terre, et ça sera évidemment une autre mission.
Justement Nicolas, qu'est-ce qui a changé depuis un an dans cette équipe rochelaise? Est-ce que c'est évidemment les mêmes leaders, mais est-ce qu'il y a des évolutions, des changements majeurs? On pense notamment au poste de numéro 10.
Ouais, voilà. Bah ça, Julien, il a bien résumé. Il y a quand même un numéro 10 déjà qui est très efficace face au but. Ce qui avait fait défaut quand même à La Rochelle dans les matchs couperets la saison dernière. Antoine Astoy, qui est en plus très très bon dans le jeu. Et puis, il y a des individualités qui sont arrivées, qui sont ultra performantes. Quand on voit les 23 qui sont alignés là par O'Gara, c'est monstrueux. Yuji Seoteni, qui est arrivé de l'UBB, il a fait un match colossal samedi. Et il est ultra fiable depuis qu'il est arrivé. Il a dépanné au poste 2. 10 en plus quand Astoy était pas là. Là sur le banc il y a Colombe qui rentre, qui revient de suspension, qui est très très bon aussi. Et puis je pense que je vais vous la faire un peu à la O'Gara et à l'Irlandaise, mais ils ont progressé dans le mindset. je le fais bien,
ouais, ouais. Tu fais bien le Ronan O'Gara.
Je suis fluent comme on dit. Et non mais c'est vraiment là-dessus et dans la mentalité de l'approche des grands événements, et c'est un peu ce qui a transpiré avant cette demi-finale contre Exeter. Moi je suis allé les voir la veille de cette demi, où on les sentait mais ultra sereins. T'avais l'impression que c'était un La Rochelle-Brive en top 14, sans manquer de respect aux brivistes, mais que voilà, c'était pas vraiment un grand événement, parce que maintenant, les Rochelais, ils savent appréhender ce genre de match, ils ont l'habitude de les gagner en plus, ils savent comment faire, et il n'y a pas que les joueurs. Tout le club, en fait, s'est structuré pour jouer ces affiches-là, et ça se ressent vraiment dans l'approche de ces grands matchs, et c'est pour ça que même quand ils prennent un essai au bout de 7 minutes de jeu, bah, ils s'affolent pas, et au bout de 2 minutes plus tard, ils répondent. Alors ok, ils étaient supérieurs, mais ils auraient pu se laisser prendre par l'aspect émotionnel. Il y avait des tribunes pleines, on y reviendra tout à l'heure, mais c'était assez dingue. Et en fait, les Rochelais, ils sont programmés maintenant pour gagner ce genre de match, un peu comme le Stade Toulousain, quoi.
Mais Léo, est-ce que ça vient pas, tu l'as dit, hein, de l'adversité finalement? Est-ce que cette victoire, on la remet en perspective parce qu'Exeter est probablement l'équipe la plus faible des demi-finales de Coupe d'Europe?
Non, ça je répète, je le pense vraiment que c'était le plus faible des quatre, et même assez nettement. Je ne suis pas ultra surpris de l'ampleur du score, parce que je pense que c'est l'écart qu'il y a entre les deux équipes, entre La Rochelle qui est tenant du titre en Coupe d'Europe, c'est pas rien, et une équipe d'Exeter plus faible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a avant sur le mindset, c'est, on en rigole, mais c'est l'immense travail d'O'Gara dans ce club, parce qu'après, l'effectif, les structures du club, il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à Vincent Merlin et Pierre Vénère qui ont construit ce club. Évidemment qu'il y a tout un gros travail de préparation derrière O'Gara, mais je trouve... vraiment sur la capacité à appréhender les phases finales, c'est quelque chose qui développait à un moment en disant les Rochelais, on est content quand on se qualifie en phase finale, et puis après on est content d'avoir gagné une demi-finale. Et lui il disait non, on est content quand on gagne, il ne faut pas être content d'être en finale. Et il a réussi à imposer ça, à faire rentrer ça dans la tête des joueurs, à ce que ça devienne normal que la Rochelle soit en finale. Son gros boulot il est là, et ouais, c'est là-dessus que je le trouve vraiment impressionnant, le boulot des Rochelais. C'est
quand même la qualité de l'effectif, les gars. Parce que quand tu vois les mecs qui sont hors groupe et qui arrivent sur le terrain à la fin pour célébrer, Thomas Lavaux, Thierry Paiva, des mecs qui ne sont même pas invités à jouer une demi-finale de Champions Cup.
Mais il y a Adad Tanga qui sont blessés. Structurellement, ouais, c'est une machine de guerre, le stade Rochelais. C'est le stade, les infrastructures, l'effectif, toute la partie financière. Et quand même, c'est devenu un vrai grand club d'Europe. Mais après, voilà, il leur manquait cette capacité à dire... on n'est pas simplement content d'être là, on est content parce qu'on gagne. Et aujourd'hui, ils ont réussi à ancrer ça dans leur inconscient. Et c'est ça qui est vraiment très fort dans le boulot d'O'Gara, je pense.
Julien, Nicolas, c'est quoi le point faible de cette équipe? Est-ce que c'est de la constance, peut-être la capacité à faire 80 minutes avec la même consistance? Ou non, il y a vraiment des points faibles qui existent? Parce que sincèrement, j'en vois pas beaucoup.
Des points faibles, techniquement, je pense que je ne suis pas assez armé pour le dire. Par contre, ouais, en effet, ce que nous a dit Ronan O'Gara, c'est que avant cette demi-finale, pour lui, La Rochelle n'avait jamais fait encore un match vraiment plein. Ils avaient joué 60 minutes, mais à chaque fois, il y a des gros temps faibles dans leur partie. Donc la constance, après, physiquement aussi, et Julien le disait tout à l'heure, on sent qu'ils ont préparé cette saison pour monter en puissance et pour arriver au pic de leur forme maintenant, à 3-4 matchs de la fin de saison du championnat et pour la demi-finale de Coupe d'Europe, et ça se ressent. Donc je pense qu'ils vont faire que monter en puissance. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de voir un point faible, parce que le 5 de devant a été monstrueux encore ce week-end. Grégory Aldrit, t'as l'impression que quand tu commentes un match de rugby, tu cites,
il touche 60 ballons.
Ouais, et puis en défense il est partout, quoi. Dès qu'il y a un ruck, il est là, plaqué, il est là, et puis les trois quarts là, ça a envoyé du très très lourd. Donc c'est vrai que c'est difficile de dégager un point faible de cette équipe, hein.
Julien, toi qui es armé techniquement plus que Nicolas.
Ouais, beaucoup. Ouais, Il a la passe des deux côtés, Julien.
Ah bah c'est sûr.
Non, mais déjà, leur chance, ils affrontent pas Toulouse en finale, parce que ça, oui, pour le coup, ils ont du mal toujours contre les Toulousains en phase finale. Non, mais on en parlait, moi je trouve que... Mais après, ils ont d'autres forces. Je trouve que là où ils sont moins forts, par exemple, que Toulouse, je trouve qu'ils sont moins présents sur tout ce qui est zone de ruck, même si Nicolas dit, Grégory Aldrit est capable d'aller contester les ballons. Je trouve qu'ils ont moins de joueurs capables d'aller contester, ralentir les sorties de balles, ce qu'Aldrit fait. Mais je trouve que Toulouse était armé pour ça. Alors, est-ce qu'il faudra utiliser cette arme-là contre Leinster? On n'en sait pas, parce qu'on va en reparler, quelle arme il faut utiliser contre Leinster. Voilà. Je trouve qu'ils ont moins de gratteurs. Ils ont Botia derrière, ils ont Aldrit devant. Ils en ont moins que certaines formations, mais ça les empêche pas d'avoir d'autres force pour le coup, avec le 5 de devant, d'être capable de détruire des groupes pénétrants. Voilà, je trouve que s'il y avait un petit point à améliorer du côté de La Rochelle, ça serait sur ces zones de ruck à les contester, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête, parce que même Nicolas dit, Aldrit, quand il est là, il est capable à lui tout seul d'aller récupérer des ballons. Donc c'est vraiment un tout petit point faible, je trouve, côté Rochelais, mais ça devrait pas les empêcher de pouvoir aller embêter les Irlandais. Est-ce qu'ils seront capables de les battre? Je sais pas, mais ils ont les armes en tout cas pour, et c'est vrai que ils ont trouvé cette constance. Parce que moi, pour avoir vu la Rochelle notamment à Perpignan, où ils avaient fait une très bonne première mi-temps et ils avaient sombré en deuxième mi-temps, Ronan O'Gara avait notamment pointé du doigt ce manque de constance entre une première mi-temps et une deuxième mi-temps, et je trouve qu'aujourd'hui ils arrivent à être sur 80 minutes constants dans l'intensité qu'ils peuvent mettre sur une rencontre.
Non, mais c'est certain que la stratégie de la Rochelle n'est peut-être pas faite pour les gratteurs. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais Nicolas, c'est davantage sur les duels qu'ils essayent de gagner, ouais, hein, sur le premier contact, et ça va être une des clés du match face au Leinster. On aura un podcast forcément dédié à cette finale de la Coupe d'Europe dans lequel on détaillera bien plus en évidence les stratégies, les forces en présence, parce que à 3 semaines de l'événement, c'est un peu délicat. Mais en tout cas, sur la saison, La Rochelle n'est peut-être pas l'équipe qui gratte le plus, mais c'est une des équipes qui gagne le plus de duels.
Ça, c'est sûr. C'est une machine à concasser un peu. Et c'est vrai que ça a été parfois reproché à Ronan O'Gara de dire que dans le style de jeu, c'était du frontal, on n'était pas trop dans l'évitement, pas dans le rugby à la toulousaine, vraiment, autant t'envoies vraiment du jeu sur les extérieurs. Ça a parfois été un petit reproche qu'on pouvait lui faire. Après, moi, je les trouve quand même... costaud dans le jeu au sol, parce que là, n'oublions pas qu'il n'y avait pas Jonathan Danti, mais quand t'as Danti qui est là, que t'as Botia qui est en troisième ligne et que t'as Aldrit qui est là, ouais, t'as quand même des il est toujours là à mettre les mains aussi, donc ouais, franchement, ça fait pas rigoler. Hein.
Il y a un joueur qui prouve chaque semaine qu'il est au niveau non seulement du top 14, ça on le savait déjà, mais aussi des grands rendez-vous de Coupe d'Europe, c'est Ujis Suteni. Quelle bonne pioche pour La Rochelle, Léo. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux pour pas garder un tel phénomène? Il peut jouer 10
ans, je crois que c'est un peu l'argent.
Tu crois? Léo, c'est une question d'argent?
Bonne pioche, non, parce qu'il était excellent à UBB, donc c'est pas une découverte non plus quand même. Il était déjà très
bon.
Ah
non, c'est pas une surprise, mais bon, n'empêche que tu fais venir un joueur qui est aujourd'hui titulaire et qui va probablement être titulaire en finale de Coupe d'Europe.
De ce que j'en sais, je suis même pas sûr que ce soit l'argent, parce qu'il avait une offre équivalente à Bordeaux. C'est un choix personnel de vie et humain qui a pesé, parce que les Bordelais avaient bien vu qu'ils avaient un joueur assez exceptionnel. Ils sont pas plus bêtes que les autres, et ils avaient très envie de le garder aussi. Voilà, il avait deux offres équivalentes, il a fait un choix personnel de ce que j'en sais.
Mais il vous surprend pas d'être à ce niveau-là? Je sais pas, peut-être que je ne le voyais pas assez jouer à l'UBB, mais j'ai le sentiment qu'il a franchi un palier à La Rochelle.
C'est physiquement, il a quand même des capacités assez hors normes. Sur la vitesse, sur la puissance, il est à peu près complet. Mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui est formé à l'ouverture, donc il n'a pas seulement ça, quoi. Il n'a pas seulement ses qualités physiques. Je crois que quand les Toulonnais vont le chercher très jeune en Australie, c'est un ouvreur de formation et on le retrouve aussi dans sa qualité de lecture des espaces, dans sa qualité de main. On retrouve pas mal. C'est un joueur qui est super complet. Il lui manque pas grand chose, quoi. Donc il est dans le top niveau mondial et il est complètement à sa place dans ce genre de match et dans une finale de Champions Cup.
La Rochelle, qui comme chaque semaine a pu compter sur le soutien de ses supporters, une ambiance de folie qui a touché même les joueurs, Nicolas.
Ouais, c'était vraiment assez dingue. Bah, écoutez un peu cette ambiance au Matmut. Tu la connais cette chanson, Pierre, hein?
Oui.
Ah, tu l'as chantée, toi, Marcel de Flandre. Mais sauf que là, ce qui était assez dingue, c'est que c'était au Matmut Atlantique, l'hymne du club qui résonne d'habitude à Marcel de Flandre à chaque match. La Rochelle a vraiment envahi Bordeaux pour cette demi-finale. Il y avait des chants partout. 4 heures avant le début du match, je peux vous dire que autour du Matmut Atlantique, c'était le feu. Des drapeaux dans le stade, 4000 personnes qui accueillent le bus avec des fumigènes. Et il y avait même encore des embouteillages 3 heures après le coup de sifflet final. C'était même un peu embêtant pour les gens qui voulaient rentrer chez eux. Les supporters eux-mêmes ont été surpris par le monde qui était présent au Matmut Atlantique.
Ah, c'est incroyable, on était venu là pour l'ambiance, mais putain, ça donne quoi.
Il n'y a rien qui peut nous arrêter, rien ne nous arrête, et maintenant le titre il est pour nous.
C'est extraordinaire, on a l'impression d'être à La Rochelle en fait, c'est comme au Stade de Flandre.
C'était une vraie transhumance, sauf que par rapport à Marcel de Flandre, bah, la capacité a été multipliée par 2,5. Vous avez imaginé que ça galvanisait les joueurs sur le terrain. Écoutez Grégory Aldrit et Antoine Astoy.
Incroyable. J'ai jamais connu ça. Vous imaginez pas la force que ça nous amène sur le terrain. Avant le match, déjà, on voit tout le public, on voit les photos, les vidéos. Et ça nous pousse. Et après, pendant le match, on les entend, bien évidemment. Non, comme a dit Greg, c'est incroyable. J'ai jamais vécu ça non plus. C'est fou. Ouais.
Et chose rare, les potos, on a vu Ronan O'Gara ému au coup de sifflet final.
C'est pas vrai.
Ouais, si, et ça, c'est fort.
J'ai pris un petit moment juste après, c'est le public rochelais. Et savoir où on était. J'avais la chance pour 16 ans comme joueur d'être suivi par la Red Army. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est super cool.
Voilà, c'est super cool. Il a dit que c'était incroyable. Ronan O'Gara qui dit que c'est super cool, franchement. Ouais. Moi, j'avais ma petite larmichette. Et les supporters il est humain. Et c'est pas un cyborg. Et non, les supporters rochelais sont plutôt optimistes et ils ne comptent pas s'arrêter là pour soutenir leur club en finale.
Bon, maintenant, la finale, vous allez la suivre où? Là, ça monte à Dublin.
Dublin.
Je pense que Leinster va pleurer.
On va gagner
21-7 pour La Rochelle.
Ici, c'est La Rochelle. Ici, c'est La Rochelle.
Bon, je vais pas vous mentir, dans l'eau, il y en avait 2-3 qui étaient un peu touchés, mais
c'est
franchement...
C'est pas vrai.
Ouais, si.
C'est pas entendu.
Non, pas du tout.
Et encore, je vous ai mis les plus propres, mais franchement, on peut s'attendre à voir beaucoup de Rochelais débarquer à Dublin le 20 mai prochain, même si ça va être très cher, les prix pour y aller. Donc, ça va peut-être inciter les supporters Rochelais à rester à La Rochelle. Mais c'est vrai qu'on essaie déjà de regarder les tarifs pour s'organiser au niveau des groupes de supporters.
un petit mot pour finir sur ce... Déjà, merci Nicolas pour ce reportage. Juste un petit mot pour finir avec cette première demi-finale. On va évidemment parler aussi de Toulouse qui a perdu. Exeter, c'est une page qui se tourne pour le club anglais avec une quinzaine de départs à venir. On pense à Stuart Hogg, à Jack Noel, à Sam Simons, à Cowan Dickey. Il y a des joueurs qui vont signer au MHR. Mais Julien, il y a un problème avec le talonneur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe?
Oui, alors Cowan Dickey fait partie de ces joueurs qui aiment bien passer des soirées un peu arrosées. Dans trêve de plaisanterie, on sait qu'il avait un problème au cervical suite avec des matchs de l'Angleterre. Il s'est fait opérer et du coup, Philippe Saint-André voulait s'assurer qu'il ne soit pas classé fameux G3 qui interdirait aux joueurs qui sont classés G3 de jouer en France pour des problèmes de cervical. Donc il a rencontré Cowan Dickey lorsque Montpellier a été joué son 8e de finale à Exeter et ils lui ont dit: on t'attend au mois d'avril à Montpellier pour passer la visite médicale parce que les cervicales allaient mieux, mais il avait perdu de la force sur un bras, Cowan Dickey, et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il allait la récupérer. Donc, il est venu mardi dernier passer des premiers examens au MHR, une journée, et le soir, il a bu quelques bières à la brasserie du club avec quelques joueurs anglais. Les joueurs anglais du MHR sont rentrés chez eux très sagement, et lui, Cowan Dickey, a poursuivi sa soirée dans des établissements de nuit montpelliérains, sauf qu'à 2h du matin, les videurs d'une certaine boîte ont trouvé qu'il était un peu trop éméché pour rentrer, donc ils ont fait appel à la police. Et Cowan Dickey a été à l'hôpital de la Péronie pour faire constater son état et il a fini en cellule de dégrisement, sauf qu'il était attendu à 9h au club du MHR et qu'à 10h, quand ils ont vu personne, ils ont appelé et on lui dit: oui, non, on a un joueur anglais en cellule de dégrisement. Ce qui n'a pas du tout plu à Philippe Saint-André, vous pouvez bien l'imaginer. Donc Cowan Dickey a signé aujourd'hui un pré-contrat et à Montpellier, aujourd'hui, on cherche une situation pour savoir si le comportement alcoolisé de Cowan Dickey pourrait être une clause pour faire rompre ce contrat, ce qu'il n'y a aucune clause dans le pré-contrat pour faire sauter ça. Mais voilà, aujourd'hui,
oui,
ils réfléchissent
rarement la bêtise.
Exactement, ils réfléchissent aujourd'hui pour faire sauter le contrat de Cowan Dickey et sa venue à Montpellier.
Léo, même information, j'imagine, du côté du middle, puisque vous les partagez avec Julien Landry. Cowan Dickey, c'est quand même un comportement un peu étrange, juste avant de signer un contrat quand même.
Ouais, le timing est incroyable quand même. C'est, bon, voilà, après des soirées arrosées, ça existe, mais dans ce timing-là, pendant une période de visite médicale dans son futur club, dans la future vie qu'on connaît pas, voilà, ça, c'est compliqué d'avoir très envie de le voir arriver en juillet quand on est Philippe Saint-André.
En face de La Rochelle, pardon.
On peut le comprendre, hein, passer de Exeter à Montpellier quand même, il avait envie de
voir. Détrompez-vous, Exeter, c'est une très jolie ville. C'est une très jolie ville, ouais. C'est une ville étudiante. C'est, le groupe Coldplay est originaire d'Exeter.
Eh ben, ça fait plaisir.
Voilà. Non, c'est, puis ça Coldplay chante. Très jolie ville d'Angleterre.
Mais ils chantent que des chansons hyper joyeuses en plus, Coldplay, donc ça reflète bien vraiment le fait que le Devon est une jolie région. En face de La Rochelle, messieurs, c'est l'équipe qui vous a donc enthousiasmé, le Leinster. Déjà, avant de nous concentrer sur le contenu, le résultat, la victoire impressionnante 41-22 face à Toulouse. Il n'y a pas vraiment de honte à avoir pour les Toulousains parce que ce n'est pas les premiers à passer à la moulinette irlandaise. Julien, cette année, l'équipe du Leinster, c'est un rouleau compresseur en fait.
Ouais, avec des chiffres effrayants. 25 matchs depuis le début de la saison, 23 succès, dont 19 avec le bonus offensif, un match nul et une défaite en Afrique du Sud où les Irlandais avaient envoyé les cadets. C'est aujourd'hui la meilleure attaque et la meilleure défense d'Europe, avec notamment moins de 10 pénalités par match depuis le début de la saison. 35 points de moyenne inscrits, des équipes éparpillées façon puzzle, comme le Racing au stade Océane du Havre, Leicester en quart de finale de Coupe d'Europe. 10 des titulaires samedi ont battu l'équipe de France en février. Et puis, il ne faut pas oublier les Sexton, Lowe, Wenshaw qui pourraient se joindre à la fête en finale. On le sait, mais l'ossature de la meilleure équipe nationale du monde s'appuie sur un gros contingent du Leinster. Cette équipe donne parfois l'impression d'être injouable. Quand elle rentre dans les 22 adverses, c'est quasiment inéluctable. Chaque touche est systématiquement punie d'un essai. D'ailleurs, samedi, les trois premières touches irlandaises ont terminé derrière la ligne d'en but. C'est le meilleur alignement en touche de la Coupe d'Europe. 93% de prise, 31 des essais marqués cette saison viennent de ce lancement de jeu. Il y a peu de failles dans cette formation aujourd'hui, comme l'année dernière, mais La Rochelle avait réussi cet exploit. Cette année, ça sera encore plus difficile car le Leinster semble encore plus fort et en plus, ça sera à Dublin.
Léo, Nicolas, question très simple. Est-ce que c'est Toulouse qui a un peu raté son match ou le Leinster était trop fort?
Difficile, quand on prend 40 points, c'est quand même difficile d'expliquer qu'on a réussi son match, quoi. J'ai trouvé paradoxalement qu'il y avait beaucoup moins d'écart que l'an dernier entre les deux équipes, alors que le score est à peu près similaire. L'an dernier, il y avait vraiment cette sensation qu'il s'était fait un peu marcher dessus, ou en tout cas rouler dessus sur la vitesse, sur à peu près tout ce qui touche à la vitesse d'exécution. Je n'ai pas trouvé autant d'écart cette année, mais par contre, sur la précision, sur les zones de marque, sur l'efficacité, ils font excessivement mal les joueurs du Leinster. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les périodes d'infériorité numérique, en 2 fois 10 minutes, ils ont pris 28 points parce que dès qu'il y a une petite brèche, ils s'engouffrent à 200 à l'heure dedans et ils font très mal, quoi. Donc Toulouse a raté son match. Non, je pense pas qu'ils aient raté leur match. Malgré tout, je les ai trouvés plutôt dans le contenu à rivaliser avec le Leinster. Mais c'est vrai que sur la précision, il y a un gros écart encore.
Ouais, c'est le côté clinique en fait du Leinster qui est impressionnant. Parce que les Toulousains, ils ont été indisciplinés. Il y a deux fautes. Bon, d'ailleurs, le premier carton jaune contre Thomas Ramos, il est peut-être sujet à des discussions. Après, le deuxième de Rodrigue Netti, ça, oui, il y est. Et sur ces périodes-là, tu le payes cash. Donc voilà, le Leinster, dès que tu as un temps faible, dès qu'il y a une possibilité d'exploiter une opportunité, ils saisissent ça. Et c'est là où ils sont très, très forts. Après, la grande chance du Stade Rochelais, quand même, si on se projette un petit peu sur cette finale sans trop le faire, c'est que y a une vraie donnée psychologie qui entre en jeu. Et les Rochelais ont gagné leurs deux derniers affrontements contre eux. Ils savent comment les jouer. Les Irlandais, après leur victoire contre Toulouse, ils étaient là. On a envie de reprendre les Rochelais, vraiment. On a envie de laver l'affront de l'année dernière. Donc ça peut aussi un peu piquer tout le monde. Donc cette finale, elle va être top. Mais c'est vrai que le Leinster est vraiment impressionnant. On parlait de points faibles tout à l'heure pour la Rochelle. Je ne sais pas si le Leinster, tu ne peux même pas dégager un seul point faible de cette équipe-là.
C'est compliqué. Et puis, ils ont un effectif tellement dense. D'ailleurs, si vous deviez sortir un joueur de cet effectif, un symbole, un joueur plus fort que les autres, c'est assez difficile, j'ai l'impression, Julien, qu'il n'y a pas vraiment de méga star qui s'impose comme une évidence.
Non, c'est vrai. Mais c'est comme quand l'équipe d'Irlande, est ce que je disais. Pareil, l'équipe d'Irlande, quand tu les regardes, les Irlandais, tu ne te dis pas, il y a un joueur qu'on pourrait sortir. Après, moi, je trouve cette troisième ligne du Leinster incroyable.
Jack Conan, Van der Flier.
Conan, c'est tellement monstrueux. Non, c'est monstrueux. Après, voilà, je les trouve complets partout. Comme dit Nico, il n'y a pas vraiment de faille. Et c'est vrai que tu ne sors pas un joueur. Là, regarde, Sexton n'est pas là. Ça ne les pénalise pas. Je trouve qu'ils sont monstrueux. Et il n'y a pas vraiment de faille. Mais voilà, c'est un collectif. Et comme disait Léo, les lancements, ils sont huilés. Tout est programmé. Ils savent exactement où il faut jouer. Et tu sens qu'ils ne paniquent jamais. Parce que contre les Toulousains, il y a 2-3 moments où tu sens qu'ils prennent cet essai très vite de Pitaki. Et puis, ils se remettent dans leur filière, et tu sens qu'ils sont tellement sûrs de leur force, tellement sûrs de leur rugby, qu'ils savent qu'au bout d'un moment, ça va finir par craquer, parce que de marquer 28 points en 20 minutes au Stade Toulousain, malgré l'affaire, c'est quand même incroyable de les avoir punis de manière aussi forte en si peu de temps, quoi.
Dernière chose un peu discutable sur ce match peut-être, Léo, c'est l'arbitrage. Pas du tout que ça a fait basculer la rencontre, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a une donnée qui est quand même hallucinante. C'est que l'arbitre est influencé par les décisions du réalisateur, encore une fois, le réalisateur irlandais qui ne remontre pas le plaquage cathédral qui aurait dû valoir un carton jaune, notamment sur Malia. Est-ce que pour vous, messieurs, et de Léo en premier, c'est un problème pour l'arbitrage vidéo, pour le rugby en général, ou c'est moi qui suis un peu paranoïaque ?
Non, ça va falloir. Au-delà de ce match, ou au-delà du France-Irlande ou Irlande-France qu'il y a eu en février, il va falloir que le rugby à un moment se penche sur ce sujet-là, parce que c'est pas qu'un problème irlandais, hein. Faut quand même aussi se regarder le nombril, on est capable de le faire en France, et on l'a eu fait en France, mais ça paraît assez inconcevable qu'aujourd'hui, avec un impact direct sur l'arbitrage, c'est-à-dire les angles qu'on propose ou pas, une personne de la nationalité, du pays qui reçoit, puisse avoir une telle influence sur le match. Donc non, il va falloir que le rugby, à un moment, s'il veut se réclamer professionnel, se penche sur le sujet. Parce qu'en plus, même quand la faute elle est pas grossière, ou même s'il n'y a pas de faute, on prête le sujet à toutes les suspicions. Donc en fait, on génère quelque chose d'assez nauséabond. Il faut que le rugby mondial trouve des solutions là-dessus.
C'est clairement insupportable.
Et puis ça change la dynamique du match en plus.
Non, mais c'est fou que, c'est vrai, comme dit Léo, que le réalisateur soit irlandais qui choisisse les plans. Et puis moi, du coup, j'ai l'exemple, parce que le Exeter Montpellier, si on en veut, une équipe là où ils se sont fait avoir par le TMO. Alors, pour le coup, l'arbitre d'Exeter Montpellier n'était pas irréprochable. Là, Wayne Barnes, lui, en plus, il n'est pas aidé par son TMO, qui ne lui montre pas les bons ralentis. C'est quand même dingue que des matchs comme ça puissent être influencés. On se rappelle aussi le Irlande-France où l'essai de Lowe, il n'est pas montré, il est montré à la mi-temps. Oh, finalement, il a mis le pied en touche, je suis désolé, on a trouvé ce plan trop tard. Non, mais c'est fou que le réalisateur et que les six nations, que le PCR se disent pas, il faut un réalisateur indépendant qui monte des images, que l'arbitre il a accès à toutes les images. C'est quand même fou que le rugby on en soit encore là, quoi. C'est comme si on faisait passer des petites mallettes avant match.
Moi j'arrive pas à comprendre. Les gars, le PCR maintenant c'est la NASA, que ce soit pour s'accréditer dans la préparation des matchs et tout ça, ça se professionnalise, c'est fou. Et par contre, peut-être une des choses les plus importantes du jeu, il faut rien là-dessus. Et c'est inconcevable en fait. C'est compréhensible.
Ce que Joël
Judge... même pas au PCR, il faut un protocole au niveau World Rugby, voilà, au niveau de Joël Judge. Il faut
ce que Joël Judge nous disait dans le podcast, puisqu'on a eu la chance de le recevoir il y a à peu près un mois maintenant, c'est qu'il s'était confronté à une problématique insoluble pour eux, parce que malheureusement, pour le Six Nations, ils espéraient avoir une technologie qui s'appelle le Hawk-Eye, qui est l'équivalent de la technologie qui existe aujourd'hui sur le tennis, et que le TMO puisse avoir le contrôle de l'intégralité des caméras seules. Et pour l'instant, ils ne sont pas capables de faire ça. Et ils doivent forcément passer par le réalisateur de la télé. Le problème, c'est pas que le réalisateur, il ait une volonté de diffuser ou pas diffuser des images à la télé des gens. Je veux dire, s'il est irlandais et qu'il veut filmer le match d'une telle façon, il n'y a pas de problème. C'est simplement que le TMO est dépendant des images du réalisateur et que normalement, la promesse de Joël Judge, c'est que ce ne sera plus le cas pour la Coupe du Monde. Donc déjà, on peut s'en réjouir. Du côté des Toulousains, en tout cas, on n'a pas voulu tomber dans la critique simpliste de l'arbitrage. En revanche, Wilfried Templier a posé la question à Hugo Mola et pour lui, le Stade Toulousain continue à apprendre.
J'ai l'impression d'être jour pour jour il y a un an et de vous dire à peu près les mêmes choses. Ce qui est dur à encaisser, c'est notre indiscipline. Ils marquent des points presque trop facilement. C'est ralent au regard de l'investissement des joueurs, de la manière dont ils se sont encore envoyés, avec l'état d'esprit qu'ils ont affiché aujourd'hui. Mais il en manque pour pousser dans ses retranchements l'équipe du Leinster.
Voilà, mais le Stade Toulousain, trop court pour renverser le Leinster.
Mais comme dit Léo, quand tu as encaissé 40 points, tu ne peux pas te réfugier derrière l'arbitrage. C'est impossible de te réfugier derrière l'arbitrage. Il peut y avoir des décisions qui prêtent évidemment à discussion, mais que le MHR, lui, s'est réfugié derrière l'arbitrage quand tu perds sur le score de 33 partout, ou des décisions sont litigieuses, tu dis d'accord, mais là, quand tu as pris 40 points, tu sais que voilà, ce n'est pas l'arbitre qui a influencé sur le sort de la partie, même s'il y a des décisions discutables.
Bien sûr. Ouais, arbitre ou pas, il y a un écart de toute façon.
Juste qu'il s'incline sur le score de 33 partout, il faut expliquer que c'est parce que c'est les règles de l'EPCR qui font que c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais qui l'emporte en dépit du fait que ce soit un match nul. Messieurs, on aura l'occasion de reparler de tout ça dans 15 jours, mais ce serait un exploit de La Rochelle. Le Leinster ne perd jamais en Irlande, aucune équipe n'a conservé son titre depuis 2017 et les Saracens, et il n'y a que 4 équipes qui ont réussi à faire un doublé. Est-ce que vous avez les 4 équipes?
Toulon.
Ouais.
Moi, je les ai parce que j'ai le déroulé sous les yeux.
Ah. Le fil conducteur, trahi par le fil conducteur.
Excellent.
Bon, vas-y, Léo, tu peux les donner.
Allez, go. Leinster, Saracens, Toulon, Leinster.
Ah, ça fait du beau monde quand même. Ça fait du beau monde. Et on souhaite forcément au Rochelais de rejoindre ce quatuor magnifique. Merci, messieurs. Là, c'est de la vraie expertise. On n'est pas sur du à peu près avec l'équipe Premium. Hein. On a senti qu'il y avait un step qui avait été franchi.
Ça va un peu plus de gueule. Ouais.
Pour des moins de 20, c'est pas trop mal. Pour des moins
c'est
de 20.
Pas trop mal. Je remercie évidemment Kevin Pogam à la réalisation, Arthur Robert à la production. La semaine prochaine, retour des mauvais de l'équipe Premium et du Top 14. En attendant, vous pouvez évidemment vous abonner à ce merveilleux podcast pour ne rien manquer, et notamment un épisode bonus cette semaine autour du 15 de France féminin. Et puis vous pouvez commenter en bien si possible et mettre des petites étoiles. On vous attend toujours plus nombreux pour le prochain numéro, et bonne semaine à tous.